Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Demain se déroule la journée mondiale de lutte contre le paludisme, responsable de 584 000 décès par an dans le monde. 90% de ces décès ont lieu en Afrique subsaharienne, principalement chez les enfants de moins de 5 ans. D'ailleurs, toutes les minutes, un enfant meurt du paludisme. Alors néanmoins, en 15 ans, le taux de mortalité lié au paludisme a diminué de moitié parmi les jeunes enfants. Le paludisme recule, hein. Plus de 100 pays sont déjà libérés de cette maladie. Au moins 55 pays sont en passe de réduire l'incidence de la maladie. Dit 75% d'ici la fin de l'année. 26 pays ont aussi entamé le processus d'éradication totale de la maladie. Mais le paludisme coûte encore cher, très cher. On estime qu'il coûte chaque année au continent africain au moins 12 milliards de dollars en productivité perdue. Et dans certains pays d'ailleurs particulièrement touchés, cela peut représenter jusqu'à 40% des dépenses publiques. Les régions où la prévalence du paludisme a diminué ont d'ailleurs enregistré des avantages économiques substantiels. Leur croissance économique est de fait 5 fois supérieure à celle des pays non endémiques. Les experts estiment qu'aujourd'hui, un peu plus de 100 milliards de dollars seraient nécessaires pour éliminer totalement le paludisme d'ici 2030. On en parle aujourd'hui avec le professeur Sandrine Houzet, qui est coordinatrice du Centre National de Référence du Paludisme en France à l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris. Si vous avez envie de lui poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Ogo Baradumbo, professeur de parasitologie à la faculté de médecine de Bamako, au Mali. Il travaille au centre de recherche sur le paludisme. C'est un chercheur africain bien connu sur le paludisme. Et on terminera en parlant du prix des vaccins avec une campagne lancée par Médecins Sans Frontières. Professeur Sandrine Houzet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour parler de cette maladie. Les auditeurs sont très nombreux à appeler pour vous poser des questions. On va principalement passer cette heure d'émission à leur répondre. Enfin, vous allez leur répondre d'ailleurs plus que moi. Mais j'ai quand même une question au départ. On a longtemps parlé d'un million de décès tous les ans du paludisme. On est plutôt descendu en dessous de 600 000, même si on sait que les chiffres sont quand même approximatifs parce que c'est une estimation de l'OMS. Quand même, à quoi sont dus ces progrès ?
Je pense que des progrès sont dus à des actions multiples menées par, entre autres, l'OMS, ou en tout cas sous ses directives. L'avantage des derniers programmes de lutte contre le paludisme ont été d'associer une lutte à la fois au niveau du vecteur, donc au niveau de l'anopheles, le moustique qui va transmettre le paludisme, avec notamment la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, l'utilisation d'insecticides à longue durée de vie qui permettent une protection plus longue, l'association d'une moustiquaire et des insecticides qui permet de lutter à la fois contre le moustique et à la fois de protéger le patient la personne qui dort sous la moustiquaire, plus l'association d'une distribution ou d'un accès plus facile ou au moins recommandé aux nouveaux antipaludiques dont l'efficacité est maintenant bien reconnue, les combinaisons à base de dérivés d'artémisinine dont l'efficacité est remarquable mais dont on craint que cette efficacité diminue dans le temps si les mesures qui doivent accompagner son utilisation ne sont pas bien respectées.
Ce qui s'était passé avant, finalement, sur les autres médicaments, où on a abouti à une résistance par mésusage quand même,
en partie, c'est-à-dire que l'utilisation de médicaments efficaces, très efficaces dont on dispose maintenant, doit s'accompagner d'une diagnostic associée du traitement du paludisme, c'est-à-dire de ne pas utiliser pour toutes les fièvres ces nouveaux traitements, mais les réserver vraiment au cas confirmé de diagnostic de paludisme, entre autres.
Je voudrais vous lire deux messages d'auditeurs qu'on a reçus sur Facebook. Annie qui dit la même chose que ce que vous dites, hein, pour prévenir le paludisme, il faut utiliser des moustiquaires imprégnés d'insecticides et lutter aussi contre les eaux stagnantes dans l'environnement, assainir les milieux, ce sont là les meilleures méthodes de prévention. Effectivement, l'eau fait le bonheur des insectes du palu.
Oui, on sait que, qui dit moustique, les moustiques ont besoin d'eau pour se développer. En fait, c'est la femelle moustique qui va pondre ses œufs au niveau de l'eau, et ensuite, dans l'eau, les œufs de moustiques vont évoluer, se transformer en larves, et celles-ci les œufs vont éclore et libérer ensuite des larves qui deviendront les futurs moustiques. Ce qui est important, c'est que selon l'espèce d'anopheles qui va transmettre le paludisme, en fait, les exigences vis-à-vis de l'eau sont très variables. Vous avez des espèces qui veulent de l'eau propre, d'autres qui préfèrent de l'eau plutôt sale. Et donc, c'est difficile de lutter efficacement contre l'ensemble des sources d'eau, particulièrement en Afrique, et particulièrement là où on sait que, à la faveur d'une pluie torrentielle, ben, tout de suite, une mare peut rapidement se constituer et être le gîte
tout simplement,
d'un futur
sans qu'il y ait forcément des bassines d'eau. Je voulais aussi le message de Diana Sangaré qui dit, en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'automédication avec les médicaments traditionnels avant que l'enfant ne vienne à l'hôpital. Ça entraîne un grand taux de mortalité. L'État doit mettre en place des stratégies de sensibilisation pour éviter ces décès. Effectivement, sur des enfants, il faut agir vite.
Oui, le problème du paludisme, c'est que pour tout le monde, il faut agir vite. On sait que en quelques heures, un enfant qui ou même un adulte qui va bien peut rapidement tomber dans le coma et décéder si on n'intervient pas très rapidement. Et c'est vrai que un des points essentiels en fait qui est sous-entendu par ce message, c'est que ce sont des messages d'éducation. Il faut expliquer à la population ce que c'est que le paludisme, expliquer que c'est quelque chose qu'on peut maintenant guérir, que l'on peut traiter, et c'est l'éducation des populations qui est nécessaire et qui doit être associé à toutes les mesures de prévention et de traitement.
On a Ati Djani qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Ati Djani, bonjour.
Et bonjour Claire, bonjour professeur.
On vous écoute.
Et Ati Djani, je vous appelle de N'Djamena. Au fait, Claire, par définition, le palu est une maladie infectieuse due à un parasite du genre Plasmodium propagé par la piqûre d'une certaine espèce de moustique anopheles femelles. Mais Claire, je vois encore, dans mon pays, il y a certaines personnes qui continuent à dormir sans moustiquaire. Par exemple, les enfants de rue, le muhajirin. Je voudrais savoir, pourquoi ces enfants ne tombent pas du tout malades? Est-ce que leur système immunitaire est élevé par rapport à ceux qui sont à l'abri ou bien c'est comment? C'est juste ça pour savoir.
Mais est-ce que ceci dit, peut-être qu'il y en a beaucoup aussi qui meurent dans la rue et qu'on ne le sait pas? C'était, moi, quand j'ai lu votre message, je me suis dit, c'était ma réaction. Peut-être qu'on ne le sait pas forcément.
En tout cas, je vois il y a des enfants qui continuent à toujours dormir
sans moustiquaire imprégné. Est-ce qu'effectivement, est-ce que professeur Sandrine Ouzé, on est peut-être inégaux là-dessus en plus?
Alors, ce qui est sûr, c'est que ce que l'on sait, c'est que le fait d'avoir eu plusieurs fois des crises de paludisme et d'en avoir guéri, petit à petit permet à l'organisme de développer des anticorps qui vont ensuite contrôler plus ou moins l'infection et permettre à ces patients de ne pas tomber malade et donc de ne pas par la suite décéder du paludisme. Pour autant, cette protection n'est que imparfaite et ne protège pas complètement vis-à-vis du paludisme. Après, il faut voir si dans la ville où vous habitez, il y a beaucoup de gîtes de moustiques, parce qu'on sait que dans un certain nombre de grandes villes africaines, au cœur des villes, finalement, il y a assez peu de gîtes qui permettent le développement des moustiques, et donc la prévalence de l'infection palustre peut être limitée dans certains quartiers.
Ça veut dire que finalement, l'assainissement dans les grandes villes a permis, en tout cas, de diminuer la fréquence du paludisme.
Certainement que, effectivement, l'assainissement associé au traitement peut-être des porteurs, la diminution en fait des malades qui vont servir ensuite pour infecter les autres moustiques.
Ça, c'est intéressant ce que vous racontez, parce que moins il y a de malades, moins il y a de risques de nouveaux moustiques, c'est ça?
Tout à fait.
Soit infectés et infectent d'autres personnes.
Et infectent et transmettent la maladie à d'autres personnes.
Voilà. Vous aviez, je crois, une autre question à poser à Tidjani.
Oui, une seconde question à poser pour les examens rapides du genre paracet. Souvent, les malades se présentent avec tous les signes du palu. Et une fois, si on utilise le paracet, le résultat est toujours négatif. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que le plus souvent, le réactif sont... Bon, par contre, le réactif même sont bien conservés. Alors, je ne comprends pas.
Est-ce que le test rapide fonctionne? Alors, on va rester avec cette question parce que je crois qu'on a en ligne, en même temps, le docteur Mohamed Diallo qui nous appelle de Ségou au Mali et qui a une question un peu équivalente à vous poser. Bonjour, merci à Tidjani, restez en ligne. Docteur Mohamed Diallo, on vous écoute, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour l'assistance. En fait, comme vous l'avez si bien dit, je suis médecin à l'hôpital Nyalangouf au Mali, chez vous, le Mali. Le Mali fait partie des pays les plus anémiques du paludisme. En fait, comme celui qui vient de me préciser l'a déjà annoncé, ma question c'est de savoir, en tant que praticien, eh bien, on a des sujets qui présentent tous les symptômes du palu, hein, des fois prostrés, on a hyperthermie, mais le patient est négatif. Et bien, on fait un traitement symptomatique et ces gens-là arrivent à se remédier. Vraiment, on ne comprend pas. Il y a un paradoxe.
Et vous vous demandez du coup si ce test de détection rapide est fiable ou pas. Je pense que c'est une question très importante, professeur Sandrine Houzet.
Donc ma réponse sera double. La première, c'est que les signes du paludisme, comme vous le savez très bien, en fait, ne sont pas spécifiques. Et c'est toute la difficulté d'un traitement ciblé du paludisme. Et d'où l'importance de d'utiliser ces tests de diagnostic rapide pour faire la part des choses entre les autres causes de fièvre. Puisqu'en fait, le paludisme, le signe principal, c'est la fièvre. Or, cette fièvre peut être d'origine virale, bactérienne, moult de raisons.
On va parler de la grippe hier, ça.
La grippe, par exemple. Exactement. Donc, d'où l'importance de bien utiliser ces tests de diagnostic pour faire la part des choses. Après, selon le test qui est utilisé, certains ne vont diagnostiquer que les accès à Plasmodium falciparum, donc l'espèce Plasmodium falciparum, la plus dangereuse, celle qui est potentiellement mortelle. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres espèces de paludisme qui sont moins bien détectées par le test, et ça dépend aussi du test qui est utilisé. En revanche, je pense qu'il faut vraiment être très ferme et très directif, dirons-nous. Les tests utilisés permettent le diagnostic de l'accès à Plasmodium falciparum.
Et c'est celui-là qui est important.
Et c'est celui-là qui tue, c'est celui-là dont il faut contenir la diffusion, et c'est pour celui-là qu'on utilise les derniers médicaments dont on doit préserver l'efficacité.
Et alors, le risque de traiter, si en fait on n'est pas sûr que c'est un palud, c'est comme ça qu'on va développer des résistances aux médicaments. C'est ça votre inquiétude, et c'est pour ça que vous dites attention.
Tout à fait. On sait, l'histoire de la lutte contre le paludisme et ses échecs nous ont appris que c'est l'utilisation disproportionnée et pour des raisons autres qu'un accès palustre des antipaludiques qui ont favorisé l'émergence des résistances.
Et donc ce test, ce TDR, ce test de détection rapide, il est efficace.
Il est efficace. Toutes les études l'ont montré. Il permet d'éliminer de façon quasi sensible à 100% un accès palustre chez un patient à Plasmodium falciparum, essentiellement chez un patient.
Merci beaucoup en tout cas pour votre question qui était très importante, docteur Mohamed Diallo, et merci beaucoup aussi à Tidjani.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du paludisme avec le professeur Sandrine Houzet, qui est coordinatrice du Centre national de référence du paludisme en France à l'hôpital Bichat Claude Bernard. Et on a Jeanne Aimée qui nous appelle de Douala au Cameroun. Jeanne Aimée, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute.
Bonjour docteur. Ma préoccupation est la suivante. Mon époux, ça fait plus de 20 ans qu'il fait des crises de paludisme. Hein. Aujourd'hui, il a 50 ans. Et quand ça le prend, il n'a pas de bourse de température. La température n'a jamais dépassé 37 degrés. Il a plutôt les courbatures, tout le corps fait mal, il a mal à la tête, il est fatigué. Et tous les mois, je dis, viens, on est à l'hôpital. C'est vrai que c'est à l'hôpital qu'on fait des tests. Souvent, on ne fait pas de tests. Mais c'est récurrent. Je voudrais savoir quelle est cette forme de paludisme. Est-ce qu'on ne peut pas l'éradiquer complètement?
Mais vous avez fait une remarque intéressante, Jeanne Aimée. Vous avez dit, mais on ne fait pas le test à chaque fois. Mais du coup, est-ce que vous êtes sûr qu'à chaque fois, c'est un palud?
Bon, parce que c'est le même signe.
Oui, mais les signes, ce que j'ai bien commencé à comprendre, moi, c'est que les signes de fièvre et de douleur, c'est assez classique, finalement. Alors, professeur Houzet?
Tout à fait, c'est une des réponses que je pourrais faire à Jeanne, c'est que il faudrait vraiment, surtout si c'est quelque chose qui dure régulièrement, mensuellement depuis 20 ans, qu'elle prenne avec son mari une occasion pour faire vraiment un test, pour s'assurer que ce soit vraiment le paludisme, et à ce moment-là on regardera au microscope et on fera le diagnostic de l'espèce de paludisme qui peut être potentiellement en cause, et on pourra peut-être lui proposer un traitement pour éradiquer définitivement sa maladie. S'il s'avère que ce n'est pas un paludisme, ça sera l'occasion de faire d'autres tests pour éventuellement poser un diagnostic et traiter de façon plus efficace son mari de sa maladie.
Et c'est pour ça que c'est important de consulter et de pas avoir recours à l'automédication, ce qui est une tentation quand on connaît la maladie.
Oui, c'est une facilité et on pense connaître la maladie, mais on la connaît pas forcément bien dans tous ses détails.
On a longtemps dit aussi que quand on avait le paludisme, en gros, gros, on l'avait à vie. Mais ça, c'est une idée fausse, en fait.
Alors, c'est pas une idée totalement fausse. C'est une idée qui est vraie.
À moitié fausse.
Voilà, c'est à moitié faux. En fait, dans le paludisme est responsable, quand on l'a dit tout à l'heure, c'est une maladie qui est due à un parasite, qui est du genre Plasmodium, comme nous l'a rappelé un des auditeurs. Par contre, il y a 5 espèces maintenant qui sont connues chez l'homme pour pouvoir donner le paludisme. Et en fait, elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Et notamment, il y a 2 espèces qui sont Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, qui peuvent persister dans l'organisme malgré les traitements usuels. Et donc, il faut...
Si on n'est plus en contact, c'est-à-dire si on n'est plus en contact. Europe.
Et voilà, tout à fait. En fait, elles restent dans le foie, elles attendent. Et elles peuvent se réveiller en quelque sorte et être à l'origine d'une nouvelle accès de fièvre à distance. Et donc pour ces 2 espèces, on a des traitements ciblés qui vont éliminer le parasite au niveau du foie. Mais il faut faire vraiment le diagnostic d'espèce dans ces cas-là, du plasmodium en cause, et donner le traitement associé.
Et c'est un traitement particulier.
C'est un traitement particulier qui en plus a une certaine toxicité et qui donc ne peut pas être administré comme ça à n'importe qui.
Merci beaucoup Jeanne-Aimé pour votre question. On a Antoine qui nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo. Antoine, bonjour.
Bonjour mesdames.
On vous écoute.
De suite d'une malaria, la semaine passée, on m'a prescrit 15 comprimés de quinine. Au 9e comprimé, j'ai eu une hypertension. J'ai dû arrêter au 10e comprimé. Alors je me pose la question de savoir pourquoi le fabricant met 10 comprimés dans la plaquette pendant que le médecin pose ou demande 15 ou 20 comprimés.
Et est-ce qu'effectivement, il y a des risques d'hypertension? Alors, professeur Sandrine Ouzé.
Alors, en fait, pour ce qui est de la quinine, la posologie, c'est-à-dire le nombre de comprimés qu'on va prendre par jour, dépend du poids du patient, ce qui n'est pas le cas de tous les traitements. Donc, c'est pour ça que, selon le patient, le médecin va pouvoir prescrire 10, 12, 15 comprimés, ça dépend. Et ça dépend du nombre de comprimés par jour et du nombre de comprimés par prise au cours de la journée, puisque la quinine doit être prise 3 fois par jour.
Donc, ça explique pourquoi le fabricant n'a pas mis...
Pourquoi on peut pas mettre un nombre standard, à la différence justement des nouveaux traitements, les CTA, qui sont à posologie fixe, et donc vous avez une boîte qui couvre la totalité du traitement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on sait que la quinine entraîne des effets secondaires. Donc ce n'est pas de l'hypertension, mais c'est des phénomènes à type de vertige, de sensation, de sifflement dans les oreilles, etc., qui sont liés en fait à la concentration de médicaments efficaces dans le sang. Et il ne faut pas, au contraire, arrêter le traitement quand on a ces signes, ça veut dire qu'au contraire, on est bien traité et poursuivre la totalité du traitement. C'est un des inconvénients de la quinine et c'est pourquoi on préfère maintenant utiliser les autres thérapeutiques.
Et c'est ça, aujourd'hui, du coup, quel est le traitement dans le cas de la crise de palud? C'est plutôt l'autre, c'est
donc
ça?
C'est plutôt les nouveaux médicaments, les ACT, CTA, donc, ou les ACT selon qu'on parle en anglais ou en français. Donc il y en a différentes combinaisons qui existent, qui sont disponibles sur le marché africain.
On a bien répondu à votre question, Antoine?
Merci beaucoup.
Marie. Merci beaucoup en tout cas. Je voudrais vous faire part de quelques questions qu'on a eues. Excusez-moi, sur internet, il faudrait que je les retrouve. J'en vois une qui dit: il y a quelques années, on nous donnait un traitement prophylactique aux patients, c'est-à-dire un traitement préventif. Aujourd'hui, on le fait de moins en moins. Pourtant, certains continuent à le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ces situations-là?
Alors, professeur Ouzé, pour ce qui est du traitement préventif, il a été justement montré que le fait d'avoir plusieurs fois le paludisme, ça finit par protéger de la maladie grave, et donc il est préféré maintenant de laisser les patients avoir le paludisme, mais par contre de les traiter rapidement pour éviter que la maladie s'aggrave, mais qu'au moins ça leur permette de progressivement acquérir une certaine immunité. En revanche, il a été montré que les populations fragiles telles que les enfants, les femmes enceintes, eux sont à risque de développer rapidement une maladie grave. Et donc, c'est vers cette population spécifique que la prophylaxie maintenant se centralise en zone d'endémie.
C'est ça. Hein. Pour les femmes enceintes, maintenant, à certains moments de la grossesse, on prescrit ce traitement en préventif et ça a de très bons résultats. C'est important de le dire.
Voilà, tout à fait. Parce qu'on sait que le paludisme chez la femme enceinte est vraiment une pathologie très spécifique. Et donc, on sait qu'il faut prendre à 3 fois, donc, au cours de la grossesse, des traitements.
Avec des risques de décès et pour la femme et pour l'enfant. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler du paludisme.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Demain se déroule la journée mondiale de lutte contre le paludisme et on en parle avec le professeur Sandrine Houzé, qui est coordinatrice du Centre National de Référence du Paludisme en France, à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris. Et si vous avez envie de lui poser des questions, vous êtes d'ailleurs très nombreux à le faire, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. On aura également dans cette deuxième demi-heure au téléphone le professeur Ogobara Dumbo, qui est un chercheur malien sur le paludisme. Professeur Sandrine Houzé, j'étais en train de le dire, les auditeurs sont très nombreux à appeler. Juste avant les informations, vous parliez quand même de quelque chose de très important, c'est ce traitement préventif chez les femmes enceintes qui est vraiment important et qui est en train de se généraliser sur le continent africain.
Qui est recommandé, dont la généralisation est recommandée effectivement par l'OMS. L'important, c'est qu'on sait que la femme enceinte, particulièrement la femme qui fait sa première grossesse, est particulièrement à risque de développer un accès palustre qui va être potentiellement mortel pour elle, qui peut être potentiellement mortel pour son futur bébé et qui peut avoir des conséquences aussi avec une prématurité, c'est-à-dire une grossesse qui ne va pas arriver à son terme, un bébé qui va naître avec un petit poids de naissance, donc il sera fragilisé dès la naissance. Et on a montré, il a été montré que le traitement préventif au cours de la grossesse contre le paludisme prévenait cet accès palustre au cours de la grossesse spécifique.
On a Faya Dumbo qui nous appelle de Conakry en Guinée. Faya Dumbo, bonjour.
Oui, bonjour, s'il vous plaît.
On vous écoute.
Oui, merci au programme et merci à l'émission Priorité Santé. Je dirais que le programme adopté et les stratégies sont très efficaces. Efficaces parce que les cas de paludisme sont considérablement diminués et les décès aussi liés au paludisme vraiment sont en baisse dans la communauté. Alors, les stratégies adoptées en Guinée, ici, surtout plus précisément à Ndiaye, et dans la structure que je sers, de la prévention et la prise en charge. La prévention, c'est la sensibilisation de la population qui se fait au centre de santé et par les agents communautaires. Le traitement préventif intermittent, vous l'avez dit tout de suite, chez les femmes enceintes, consiste à donner de la ST à partir de la fin du premier trimestre. Et la distribution gratuite des MITA, c'est-à-dire les récipiaires imprégnés à longue durée d'action. Ça, c'est côté prévention. Côté prise en charge, c'est le traitement des cas de paludisme au centre de santé après le test de diagnostic pratique. Et la distribution des ASAC, c'est-à-dire artesunat et amodiaquine.
Alors tout ça, on le comprend bien, parce qu'on l'a évoqué dans l'émission, donc on ne va pas le redire, Faya Dumbo. Donc tout ça, vous trouvez que c'est bien, donc on avance, vous dites bien qu'on avance en Guinée-Conakry sur cette question de la prise en charge du palu. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez aussi quelques critiques à émettre.
Oui, bon, des difficultés. Je dirais que les agents chargés de l'exécution de ce programme dans la communauté sont en nombre inférieur par rapport vraiment à la zone à couvrir. C'est-à-dire 2 à 3 agents maximum par centre de santé ou 5 agents communautaires pour une population de 10 à 15 000 habitants pour couvrir vraiment, il y a encore des zones qui ne sont pas
couvertes. Et ce sont ces agents communautaires qui font tout le travail de prévention et effectivement c'est très important et on comprend bien que vous trouviez que vous n'êtes pas assez nombreux pour faire ce travail si on veut faire un vrai travail de prévention. Merci vraiment pour cette intervention, c'était important de le signaler. On a David qui nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo. David, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute David, je crois que vous êtes médecin.
Bonjour Claire, je vous écoute.
On vous écoute.
Oui, je vous. Ok. Je voulais intervenir sur le paludisme. Je voulais dire, il y a un problème sérieux dans notre pays. Il y a une bonne politique de la lutte contre le paludisme, pas focalisée dans le point plus reculé de notre pays. Il y a un problème des dosages. Il y a un problème de la prise en charge des paludes graves dans notre pays qui pose un grand problème. Et puis, il y a aussi un problème des personnes soignantes qui n'ont pas une information fiable sur la prise en charge du paludisme. C'est ça qui pose un problème, surtout chez les enfants, les nouveau-nés, qui sont ici. Il y a un sérieux problème là-dessus. D'où, il faut que le pays organise les ateliers sur le paludisme, entre autres dans les jours pareils, qui va aider tout le monde et de mesurer la, le niveau des gens qui pratiquent ici à Kinshasa. Plus précisément chez nous, si je prends ici à l'Équateur...
Oui, David, moi, ce que je voulais vous demander, pour être bien sûr que je comprends ce que vous dites, vous trouvez que la prise en charge du paludisme dans les centres de santé n'est pas toujours appropriée?
Respecté.
On ne fait pas toujours
oui,
ce qu'il faut.
Oui, n'est pas appropriée, puis n'est pas respectée, oui. Il y a une bonne politique de la prise en charge, mais qui n'est pas verticalisée. C'est l'unité dans un petit coin. Les gens qui sont au fond, il y a des temps de mortalité due au paludisme à cause de la manque et de la dévalorisation de ces programmes de lutte contre le paludisme.
Et ça, il faut former le personnel santé. Il faut former le personnel de santé, c'est ça?
Oui, les personnels de santé qui ne sont pas bien informés à ce point. C'est ça qui pose le problème dans notre pays.
Et alors, je crois que vous voulez souligner qu'il y a évidemment un risque de décès plus important, mais pas seulement, c'est ça?
Je vous écoute, c'est clair.
Il y a aussi un risque, il y a des risques évidemment de décès, mais il y a aussi un risque de résistance après au traitement, quand c'est mal utilisé.
Oui, il y a un problème de résistance. Il y a d'autres qui n'ont pas une bonne information sur la prise en charge, surtout sur le dosage des antipaludiens. Ça crée un problème donc de la résistance de cette maladie dans notre pays.
Et c'est vraiment très important.
C'est compliqué à un moment donné.
Tout à fait. Merci David pour cette intervention. Je vais vous faire réagir, professeur Rosé, sur la question de la résistance. On en a déjà parlé dans la première partie de l'émission. C'est quand même bien d'y revenir. C'est quand même une des grandes craintes en cas de mésusage. Quelles sont les recherches menées sur d'abord la compréhension de ces questions de résistance, puis peut-être aussi pour trouver d'autres traitements, si jamais on aboutit à une résistance de ces traitements à base d'artémisinine?
Mais effectivement, les deux voies de recherche sont en cours. Donc, de nombreuses études sont on mobilise les différents chercheurs qui travaillent sur le paludisme pour comprendre les résistances au nouveau traitement, quelles sont leurs origines, quelles sont leurs modalités de transmission, et puis à partir du moment où on aura compris quels sont les principes de ces résistances, on pourra développer de nouveaux médicaments, et c'est le cas, hein, les industries pharmaceutiques essayent de modifier, transformer, améliorer les médicaments existants ou carrément trouver de nouvelles pistes thérapeutiques, de nouvelles cibles pour contrer ces éventuelles résistances.
Et justement, il y a de nouvelles pistes thérapeutiques pour trouver de nouveaux traitements ou on en est encore aux prémices et on n'y est pas encore?
Il y a quelques traitements, quelques molécules qui sont dans le pipeline, comme on dit, mais c'est vrai que on n'a pas un arsenal thérapeutique très prometteur, rapidement disponible, d'où l'intérêt de vraiment préserver l'efficacité des traitements actuels.
On a Edouard qui nous appelle de Bangui, en Centrafrique. Edouard, bonjour. Edouard, bonjour, vous êtes en direct dans Priorité Santé. On entend un beau klaxon, mais est-ce que vous êtes en ligne avec nous?
Oui, je suis en ligne.
On vous écoute, Edouard.
Bon. Comme je vous ai dit hier, je voulais toujours intervenir par rapport à propos précisément de mon pays, parce qu'il y a, vraiment un manque de la volonté politique de nos gouvernants, et ça fait que l'État actuel n'arrive pas à mettre en place une structure d'État pour les soins contre les paludisme. Et ça fait que c'est vraiment d'amplifier du jour en jour. Et si vous regardez sur le campus des déserts, vous voyez qu'il y a 70% des gens qui tombent souvent malades et c'est arrivé à l'hôpital, mais c'est les paludisme.
C'est ça. Mais il n'y a pas d'infirmerie pour les étudiants. Or, les étudiants tombent malades. Merci effectivement, Edouard, pour ce témoignage. Le partenariat fait reculer par le paludisme souligne souvent cette question. Les pays qui avancent, en tout cas dans la lutte contre le paludisme, sont ceux où il y a justement une forte implication des politiques pour se mobiliser sur ces questions-là. On a Josué qui nous appelle de Côte d'Ivoire. Josué, bonjour.
Bonjour, Père.
On vous écoute.
Ok. Ma question, c'est concernant le traitement de paludisme. J'ai remarqué que très souvent, les enfants reviennent avec des formes de... En fait, on a fait les analyses, on a fait le traitement, mais ils reviennent encore au contrôle avec des hypertenses encore positives. parce qu'il y a très souvent sur le marché des fausses sécures qui sont vendues par des personnes qui ne sont pas de la santé et même du personnel de santé. Et cela est un véritable problème pour le traitement et pour l'éradication du paludisme dans ces pays africains, et notamment en Côte d'Ivoire. Et autre phénomène, c'est que malgré la distribution de moustiquaires, il y a beaucoup de ménages qui ne l'utilisent pas. Et qui, pour ces ménages-là, c'est dû au fait que la moustiquaire les étouffe ou les empêche de bien dormir la nuit. Et je pense que ne serait-il pas convenable ou bien ne serait-il pas intéressant de revenir à l'utilisation de pesticides général dans la ville, de sorte que les personnes qui habitent dans les bas-fonds, qui habitent dans les zones à haut risque, puissent également être protégées. Parce que quand l'enfant est dehors, il n'y a pas de moustiquaire. Alors, il est exposé aux piqûres de moustiques et ainsi au paludisme.
C'est important. C'est effectivement, vous avez souligné beaucoup de choses importantes. La question des campagnes de pulvérisation d'insecticides en ville, est-ce qu'elles se font encore, professeur Ouzé?
Non, il était proposé de plutôt faire des campagnes de pulvérisation d'insecticides à l'intérieur du domicile, parce que ce que je n'ai pas précisé jusqu'à présent, c'est que les moustiques qui transmettent le paludisme, pour la plupart d'entre eux, préfèrent vivre dans les maisons qu'à l'extérieur des maisons. Et donc, en fait, c'est paradoxalement dans la maison que les personnes sont les plus à risque d'être piquées. Mais là aussi, on s'aperçoit que les moustiques modifient leur façon de vivre, entre guillemets, et trouvant de plus en plus les moustiquaires comme obstacle pour accéder aux patients, aux populations, peuvent éventuellement maintenant piquer à l'extérieur des maisons aussi. Mais bon, pour le moment, il est quand même recommandé de plutôt développer le traitement la pulvérisation des insecticides intradomiciliaires, et aussi ça fait partie des moyens de lutte, en plus du moustiquaire, des traitements, etc.
Absolument, merci José pour cette remarque. Il y avait aussi une autre question sur les fausses molécules sur le marché, qui était quand même aussi très importante.
Oui, ça c'est une constatation, effectivement, la lutte contre les médicaments contrefaits, c'est vrai pour le paludisme, comme tout, donc comme de nombreux autres médicaments, les antibiotiques, les antirétroviraux, etc. Et ça, c'est vraiment un gros problème que ces médicaments de mauvaise qualité qui peuvent circuler, d'où l'importance d'essayer de contrôler le circuit du médicament.
C'est très important et on y reviendra nous la semaine prochaine. Je suis à Dakar au Sénégal justement pour des émissions sur les faux médicaments. On parlera du danger des faux médicaments, dont une mauvaise prise en charge du coup du paludisme. On y reviendra.
Tout à fait. Et en plus, avec un risque que ça s'aggrave, puisque les patients pensent être traités alors que c'est pas le cas.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du paludisme avec le professeur Sandrine Ouzé, parce que demain, c'est la journée mondiale du paludisme. Je voudrais faire part de quelques messages qu'on a reçus sur Facebook. Il y a Irakos qui nous dit « Par quel mécanisme le palud est responsable d'insuffisance rénale, qui est la principale complication faisant des victimes ?» Est-ce qu'effectivement, il y a un lien entre palud et insuffisance rénale, ou pas forcément ?
Alors, ça dépend des espèces de paludisme, de plasmodium. On sait qu'une espèce qui est plasmodium malariae peut être responsable d'insuffisance rénale. Et c'est un effet, une séquelle qu'on peut retrouver également après un accès dit grave à plasmodium falciparum, donc l'espèce qui tue. Et le principe, c'est qu'en fait, le parasite va produire ce qu'on appelle un pigment, un composé, qui va s'accumuler au niveau du rein et empêcher le bon fonctionnement du rein après l'accès palustre.
Et il y a Seriba, qui est à Ségou, au Mali, qui nous dit, est-ce que le paludisme peut provoquer des crises cardiaques ou des évanouissements?
Alors, à proprement parler, non, puisque le paludisme ne va pas s'installer dans les cellules du cœur. Par contre, il peut y avoir des effets secondaires liés aux atteintes du paludisme et se traduire par un coma, une insuffisance, des vertiges, etc.
On attend pour joindre le professeur Ogobara Dumbo, qu'on a du mal à joindre parce qu'on voudrait parler de toutes les recherches sur le vaccin auquel il participe à Bamako au Mali. Mais justement, je voudrais avant du coup prendre Médecins sans frontières. On a au téléphone le docteur Annette Enzelman. Bonjour, vous êtes directrice médicale de MSF et vous allez nous parler d'une campagne mondiale que vous lancez sur le prix des vaccins. Pourquoi vous lancez d'abord cette campagne, docteur Enzelman?
Bonjour.
Ouh là là, vous êtes à Paris, mais la ligne téléphonique est très mauvaise. Que se passe-t-il?
Je suis à Bruxelles.
Vous êtes à Bruxelles, vous n'êtes pas à Paris, pardon. On vous écoute, reprenez.
Ok. En lançant cette campagne pour obtenir un prix de 5 $ pour une vaccination complète des enfants contre le pneumocoque. Et les pneumonies, c'est une des maladies les plus mortelles pour les petits-enfants en dessous de 5 ans. Et chaque année, il y a à peu près 1 000 000 de décès des petits-enfants. Ça correspond à 15% des décès des petits-enfants. Et la plupart de ces décès pourraient être évités par une vaccination.
Donc ce vaccin est très important. C'était la première chose oui. à dire. Et c'est un vaccin qui coûte cher?
Oui, c'est pour le moment, c'est un vaccin qui coûte cher. Il y a des prix différents pour des différents marchés. C'est-à-dire pour les pays en voie de développement, il y a des prix subventionnés par l'Alliance pour la vaccination. C'est
Gavi.
Une alliance Gavi. Pour les pays très développé, il y a des prix plutôt chers, c'est-à-dire autour de 60 $ par dose, par exemple pour la France c'est 58 $. Et après il y a des pays à revenus moyens qui doivent négocier un par un les prix. Et donc là on a des disparités des prix assez importantes qui évitent ces pays qui ne sont pas subventionnés par Gavi d'avoir des prix que eux peuvent payer. Donc il y a un grand problème d'accès dans beaucoup de pays et on arrive à une couverture globale d'à peu près 25% des enfants vaccinés.
Et ce qui n'est pas du tout suffisant. Et en plus, certains pays sont éligibles pendant un temps à Gavi, puis ne le sont plus. Et du coup, après, le prix du médicament n'est pas le même. Ce que vous dénoncez aussi là-dessus, c'est l'opacité. C'est-à-dire qu'on n'est pas au courant, il n'y a pas de chiffre officiel de prix de ce vaccin.
Voilà, donc comme la plupart des compagnies, les compagnies ne sont pas obligées de rendre public les prix de production et les prix de développement pour un médicament pour un vaccin. Par contre, il y a eu des évaluations, par exemple, de Gavi. Gavi pense ou a publié des chiffres qu'autour de 10 $ pour un cours de vaccination, il y a encore une marge de profit assez importante pour les deux gros producteurs de ce type de vaccin qui sont GlaxoSmithKline, donc GSK et Pfizer. Et donc, pour créer une dynamique de marché et de rendre des prix publics, ça permettra aux pays de négocier des prix. On pense que c'est absolument nécessaire et on demande à ces compagnies pharmaceutiques de rendre public les prix pour la production et pour...
C'est ça. Vous demandez que ces prix soient publics et vous demandez également une baisse de ces prix pour que ce soit accessible.
Oui, voilà. Ça, ce sont les deux demandes qu'on a et c'est pour ça qu'on a lancé une campagne parce que nous, MSF, on a négocié depuis 2009 avec ces deux grands producteurs et aujourd'hui, on demande au public de nous soutenir dans cette demande d'avoir des prix accessibles.
C'est ça, les rendre le plus accessibles possible. Vous avez peut-être envie de réagir à cette question, professeur Rouzé, parce que c'est des questions que vous connaissez quand même. Vous travaillez sur le paludisme, mais aussi sur ces questions de maladies infectieuses.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que le coût des vaccins peut être un frein à leur utilisation dans les populations fragilisées, notamment.
C'est important. Merci beaucoup de nous avoir alerté sur cette campagne de MSF, docteur Annette Eselman. Je rappelle que vous êtes directrice médicale de Médecins Sans Frontières. On a au téléphone, on va continuer à parler du paludisme, on n'arrive toujours pas à joindre le professeur Ogobara Dumbo. S'il nous écoute, on veut bien qu'il nous recontacte lui-même. On a Mahamat qui nous appelle du Tchad. Mahamat, bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour Claire.
On vous écoute, Mahamat.
Moi, je suis syndicat. Je constate également que la maladie prend un grand ampleur. Quoi. Dans l'Afrique, et plus précisément vers le Tchad. Et je suis du région méridionale du Tchad. J'ai constaté également que là-bas, la maladie attaque beaucoup plus les enfants. Et
vous aviez une question à poser.
Oui. J'aimerais savoir, est-ce que la maladie est due au fait que les gens consomment des aliments végétaux ou à l'immunité diminuée, quoi?
Est-ce qu'il y a un lien, finalement, entre l'alimentation et le paludisme, professeur Sandrine Houzet?
Bah, jusqu'à preuve du contraire, non, puisque vraiment la transmission de la maladie est exclusivement liée à la piqûre du moustique, absolument pas transmise par les aliments que l'on va consommer. Par contre, vous dites que la relation avec la saison des pluies, elle est certainement liée au fait qu'il y a plus de moustiques pendant cette saison-là. Mmh. Et donc peut-être qu'en même temps, on mange plus de végétaux parce que c'est la période de récolte, mais la liaison, elle est vraiment liée aux moustiques et non pas à l'alimentation.
Et alors, sauf peut-être la question quand même, pour le coup, de la malnutrition, c'est-à-dire d'enfants pas suffisamment alimentés, est-ce que ces enfants-là sont plus à risque de faire des crises de paludisme?
Alors, c'est vrai que différentes études ont été menées ou sont en cours sur les facteurs associés de la malnutrition, des déficits en vitamines et la résistance au paludisme. En fait, ça a certainement un élément qui va favoriser le développement d'un accès grave par rapport à une infection qui sera mieux contrôlée par l'organisme.
Merci beaucoup en tout cas pour votre question, Mahamat. On a Alain qui nous appelle de Brazzaville au Congo. Alain, bonjour.
Bonjour, madame.
On vous écoute, parlez bien fort parce que la ligne téléphonique n'est pas très bonne.
Bon, j'ai deux questions. La première, c'est concernant le test du paludisme. En effet, il m'arrive souvent de ressentir les symptômes du paludisme et quand je vais à l'hôpital, on fait le test est parfois négatif. Force est de constater, malgré que le test soit négatif, le médecin me prescrit quand même le produit contre le palu parce qu'il se dit la négativité du test ne veut pas à tout prix dire que vous n'avez pas le palu. Je vous mets sous produit palu parce que vous présentez les signes du palu. Et la deuxième question, j'aimerais savoir si c'est vrai parce que y a des gens qui disent que les moustiques qui provoquent le paludisme pas ceux qui piquent souvent la nuit, mais ceux qui piquent la journée ne provoquent pas le paludisme.
Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est très intéressant vos deux remarques, Alain. D'abord, j'imagine que vous avez envie de réagir, professeur Houzet, sur cette question. Finalement, le test donne un résultat négatif, le médecin a peur que ce soit quand même un palu et traite. Et c'est ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est ça, professeur Sandrine Houzet?
Tout à fait. Ce sont les modalités de fonctionnement qui mettent en échec les recommandations de lutte et de tous les moyens qu'on met pour lutter contre le paludisme. Alors que on peut, surtout chez un adulte, on peut se permettre, des études l'ont montré, on peut se permettre de ne pas traiter de pas donner les médicaments contre le paludisme si le test est négatif, d'attendre 24 à 48 heures. On sait que les infections virales, en 24 à 48 heures, la fièvre va disparaître, le patient va recouvrir un état normal, et si vraiment ça persiste à ce moment-là, 48 heures après, on refait un test, et entre-temps il a pu se positiver, prouvant que c'était peut-être un début de paludisme, ou rester négatif, et ce qui prouve que vraiment ce n'est pas le paludisme.
Mais c'est ça, le message important à faire passer, c'est que quand le test est négatif, il faut absolument pas prendre le traitement contre le palu.
Exactement.
Parce qu'autrement, on va développer les résistances et c'est votre grande inquiétude.
Tout à fait. Ça a augmenté la quantité de
médicaments. Voilà. Et la deuxième question d'Alain qui est intéressante aussi, on dit toujours que les moustiques qui piquent la journée transmettent pas le palu, c'est simplement la nuit, c'est effectivement vrai?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs espèces de moustiques différentes qui peuvent transmettre différentes maladies. Et effectivement, les moustiques qui transmettent le paludisme ne piquent que la nuit. En gros, essentiellement, on va dire entre 23h et 6h du matin. Donc, c'est-à-dire qu'en la nuit, en deuxième partie de nuit, quand celle-ci est bien installée. Et les autres moustiques, eux, par contre, peuvent transmettre d'autres maladies, telles que la dengue, le chikungunya, voire des filaires, qui sont d'autres parasites des petits vers. Donc, il faut, dans la mesure du possible, aussi se prémunir de ces piqûres de moustiques.
Merci beaucoup, en tout cas, Alain, pour ces questions. on arrive à la fin de cette émission, définitivement, on ne réussira pas à avoir au téléphone le professeur Ogbara Dumbo. J'aimerais quand même vous poser une question, professeur Sandrine Ouzé, sur les vaccins contre le paludisme. Il y a encore une étude qui vient de sortir, qui a été publiée dans le Lancet aujourd'hui sur ce vaccin, le RTSS. Finalement, les résultats sont quand même assez décevants. C'est un vaccin qui protège peu, entre 30 et 50% des cas. Pourquoi est-ce si difficile, finalement, de mettre au point un vaccin contre le palu?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le parasite responsable du paludisme, eh bien justement, c'est un parasite avec de nombreux antigènes différents, et ce qui fait qu'il faut que l'organisme puisse développer plein d'anticorps, et que d'une souche de paludisme à l'autre, ces antigènes sont différents. Il faudra renouveler les anticorps, etc. Ce qui fait qu'il est difficile, même pour l'organisme qui attrape naturellement la maladie, de développer une protection efficace.
Donc en fait, c'est un vaccin qui est compliqué à développer.
Tout à fait.
C'est ça.
Mais qui est lié au fait que l'organisme responsable de la maladie est un organisme compliqué en lui-même d'un point de vue biologique.
Parce qu'il y a des recherches pour l'instant, mais on n'arrive pas finalement à trouver le bon vaccin.
Et on essaye, les dernières recherches ont pour objectif de faire au moins aussi bien que la maladie naturelle, c'est-à-dire une protection vis-à-vis essentiellement de l'accès grave, donc de la mortalité, mais qui n'empêchera pas complètement la maladie.
Merci beaucoup, professeur Sandrine Ouzé. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du Centre National de Référence du Paludisme à l'hôpital Bichat Claude Bernard. Lundi, je vous propose un reportage sur la santé maternelle en Afghanistan. Et moi, je vous retrouverai à Dakar, au Sénégal, où on va faire une série d'émissions sur les faux médicaments et sur l'accès aux médicaments. Bonne fin de semaine à tous. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à lundi.